Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérard.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette librairie francophone estivale ouverte à toutes les cultures, dans toutes les disciplines. Nous sommes à Montréal aujourd'hui, voici le sommaire. Nous allons sillonner la ville de Montréal pour célébrer ses 375 ans et les 150 ans du Canada. Depuis le vieux Montréal d'où je vous parle, au milieu de la foule dans cette chaleur de l'été, avec les terrasses des restaurants autour, très animées, et le fleuve Saint-Laurent à proximité, nous allons nous déplacer vers la place des festivals pour une rencontre inédite entre le chanteur ivoirien Tiken Jafakoli et le jeune Québécois d'origine sénégalaise Karim Ouellet. Tous les deux portent une attention particulière au texte de leurs chansons, échanges, partages, coups de gueule, découvertes et engagement. Ce sera notre séquence, le club francophone tout à l'heure. Avant cela, nous irons dans un quartier chargé d'histoire avec l'humoriste Boucar Diouf pour un sketch québécois inédit. Le grand entretien, ce sera avec Albert Uderzo dans sa maison de Neuilly en France. Nous ferons aussi escale à Marseille pour une visite du MUCEM. Et vous entendrez un extrait du concert de Tiken Jafakoli au Francofolie de Montréal pour les 375 ans de la ville.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Guérard.
Et on commence avec un livre de poche pour votre été. Chaque semaine, nous vous proposons un entretien avec un auteur qui a participé à la librairie francophone lors de la sortie de son livre. L'italienne Simonetta Greggio avait publié Black Messi aux éditions Stock en 2016. Son roman est sorti en poche au printemps. Retour sur une entrevue très agitée. Et bonjour Simonetta Greggio.
Bonjour.
Vous êtes une habituée de cette émission depuis 10 ans, quasiment.
Je l'adore, il faut croire c'est que c'est un peu réciproque.
C'est réciproque. Vous venez de publier Black Messi aux éditions Stock. C'est sans doute le roman le plus complexe que vous avez écrit. Nous sommes à Florence et vous évoquez le monstre de Florence qui aurait tué 7 couples entre 1968 et 1985.
C'était le premier tueur en série européen, en fait. Et à l'époque, on était tellement nuls qu'on savait... Alors, l'ADN, c'était à venir. Mais on était nuls même pour le stab ou pour les empreintes ou tout ça. Mais à tel point que même des chaussures, vous savez, même Sherlock Holmes, c'était en avance sur nous.
Oui, parce que la justice italienne n'a jamais arrêté le coupable.
Non, non, ils ont arrêté un vieux type absolument monstrueux parce qu'il avait un inceste avec ses enfants. Enfin, il était vraiment... C'était un type affreux. Mais c'était probablement pas lui.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de base de données nationale d'ADN en Italie, tout cas à l'époque il n'y avait pas.
Et encore maintenant d'ailleurs.
Ah, encore maintenant.
Encore maintenant, il n'y a pas de banque de données parce qu'il y a la legge de la privacy, donc la privacy italienne qui empêche la mise en route de cette banque d'empreintes génétiques. Ouais. Je ne sais pas comment ils se débrouillent.
Et alors cette histoire de tueur en série, apparemment elle aurait inspiré Le silence des agneaux et le terrible Hannibal Lecter, c'est vrai ça?
C'est plutôt, en fait il avait été, Thomas Harris avait été au premier procès et il avait écrit l'un de ses premiers livres, je crois son tout premier, qui était Black Sunday.
Mm-hmm. Ouais. Et vous êtes mis un peu dans l'ambiance, dans la peau de l'auteur du silence des agneaux, un peu dans la peau des enquêteurs, c'est un mélange de tout ça votre roman.
Mais j'aime infiniment les romans noirs, j'aime les polars, j'aime les thrillers.
Là c'est pire que ça encore. Hein.
C'est un vrai noir, c'est un noir, vous savez, soulage, plus noir que noir.
Un noir soulage, c'est vrai.
Et moi je me mets dans la peau du personnage, je me mets dans la peau du tueur, et c'est vrai que pour moi le fait d'écrire un noir, c'est... essayer de mettre les mains dans le cambouis du mal. Et c'est comme une catharsis. En fait, tout ce qui est noir, tout ce qui est hémoglobine, finalement, ça vous renvoie à la lumière. C'est ça qui est intéressant dans le noir.
À un moment, l'un de vos personnages dit qu'en Italie, il y a 28 disparitions par jour. Depuis 1974, plus de 25 000 personnes n'ont pas été retrouvées.
Mais vous savez, depuis 2 ans, il y a 10 000 enfants qui ont disparu.
10 000 ?
Oui, en Europe. C'est pas qu'en Italie, mais beaucoup en Italie aussi. Et il y a en ce moment une traite de mineurs qui est absolument fantastique. Ça. Et je pense que là derrière, il doit y avoir des choses vraiment
terribles,
dégueulasses.
Ouais. Et on ne dit rien en fait. On en parle très peu.
On en parle très peu parce que je pense qu'il y a une sorte de mur, vous savez, de mur de verre, comme si ça arrivait aux autres. Mais les autres, c'est nous.
Mais c'est le premier livre que je lis de vous, Simonetta Greggio. Je crois que je les ai quasiment tous lus. Qui est aussi compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de personnages, des histoires se croisent. Vous partez dans des chapitres avec un mystère absolu. Franchement, parfois on ne comprend même pas la fin du chapitre. C'est un roman qu'il faut décrypter, c'était ça l'intention ? Devenir un enquêteur nous-mêmes ?
Oui, et puis les enquêteurs dans ce livre sont tellement nuls qu'il faut qu'on leur fasse leur place.
Hein. Mais ça c'est le boulot de l'auteur, non ?
Mais il fallait qu'ils soient nuls, parce que comme ça c'est nous qui allons... Vous savez, c'est ça qui est bon dans un vrai noir, dans un vrai polar, c'est d'être plus intelligent que l'auteur.
Vous avez compris au final tout ce que vous avez écrit ?
Je pense qu'il y a encore des choses qui me restent mystérieuses.
Oui, c'est ça. Hein. Non, mais c'est vrai. Vous êtes un peu emportée, Simonetta.
Et de toute façon, oui, je suis très emportée comme fille.
Il y a Miles, cet homme qui a perdu sa femme. Là encore, je ne vous dis pas dans quelles circonstances. C'est un homme noir qui élève sa fille adolescente. Un personnage complexe qui, comme les autres protagonistes, ont des besoins d'hommes. Et c'est vrai que les hommes, dans votre récit, dans cette histoire de tueur en série, ils ont souvent des problèmes avec le sexe.
Non. Ça, non, mais ça, c'est vrai. Les hommes ont des problèmes avec le sexe. Non,
Simonetta.
Emmanuel.
Non, mais...
c'est incroyable.
On ne peut pas faire un entretien sérieux avec vous aujourd'hui. Non, mais voilà, la caricature.
Non, mais autour d'un noir, vous voulez faire vraiment quelque chose de sérieux autour d'un noir ? On va y aller, hein ?
Autour d'un noir, d'un roman noir. Oui.
d'un roman noir, bien sûr.
Non, c'est un personnage est noir.
Oui. Eh ben oui, bien sûr.
C'est n'importe quoi. Hein.
Mais je suis ravie que ça soit n'importe quoi.
Revenons
parce que
au sexe.
Le roman... Et il y a du rock'n'roll aussi, quand même, Emmanuel. Mais on ne peut pas être sérieux autour de ce livre qui est tellement affreux, de toute façon, qu'on ne peut qu'en rire à la fin, parce que c'est vraiment affreux, je veux dire. Ça fait peur. Moi, ça m'a fait peur, moi,
oui.
De l'écrire. Vous n'avez pas eu peur en le lisant ?
Non.
Ça y est, il a un fou rire, j'y crois pas.
Black Messi de Simonetta Greggio est paru en poche au Livre de Poche. Alors que nous traversons la place Jacques-Cartier dans ce vieux Montréal où nous sommes aujourd'hui, émission en déambulation avec notre matériel mobile et nos micros, je vous propose à présent d'écouter un artiste québécois très connu ici et qui commence à se faire un nom dans les autres pays francophones. Voici Louis-Jean Cormier avec un extrait de Tout le monde en même temps dans la librairie francophone estivale. Jean Cormier, Tout le monde en même temps, sur votre radio francophone. Nous sommes à Montréal cette semaine, arrivés sur le port de la ville avec ces longs quais qui s'avancent sur le fleuve et tous ces bateaux qui sont autour de nous. Un public éclectique, très cosmopolite, ici dans une ambiance très estivale. À Marseille, justement, le MUCEM, le Musée de la Civilisation et de la Méditerranée, est un bâtiment étrange situé au bord de l'eau, à l'entrée du port de commerce et à la sortie du Vieux-Port. Du port de Montréal au port de Marseille, visite de ce lieu atypique ouvert sur le monde francophone avec le conservateur Denis Chevalier.
La librairie francophone estivale Emmanuel Kérad.
Bonjour Denis Chevalier.
Bonjour.
Alors on est au Mucem et on est face au Fort Saint-Jean, très exactement, avec le Vieux-Port qui est juste en face de nous, en tout cas l'entrée du Vieux-Port. Et on est au bord de l'eau là.
Avec la résille en BFUP, en béton fibré, qui a été imaginée par Rudy Ricciotti. La passerelle qui va du bâtiment dit du J4, c'est-à-dire le bâtiment principal, jusqu'au Fort Saint-Jean, qui est un fort militaire édifié du temps de Louis XIV et qui fait lui aussi partie du musée, avec un grand jardin dans lequel le public aime venir se promener le week-end et pas seulement le week-end.
Alors, on est sur un quai, hein, en quelque sorte. Il y a beaucoup de vent, hein, comme c'est souvent le cas ici à Marseille. On va entrer dans le Mucem et on va faire cette visite avec vous, Denis Chevalier.
Et là, on a donc organisé, à l'occasion de l'exposition Vie d'ordure, un espace qui présente une carte de la grande métropole de Marseille, 92 communes, 2 millions d'habitants, et qui va montrer au public comment on gère les déchets de Marseille, puisque l'exposition parle des déchets.
On peut marcher, hein, parce que la carte
alors,
on peut marcher sur la carte.
Marcher sur la mer sans se
noyer. Oui, c'est ça.
C'est extraordinaire.
Alors là, je marche sur le Vieux-Port, vous voyez là. Ma chaussure fait exactement la dimension du Vieux-Port.
Vous marchez sur le Mucem, attention.
Oui, je marche sur le Mucem aussi. Et là, évidemment, il y a la pollution avec les voitures, les embouteillages qui génèrent de la pollution. Et puis ce port, hein, que l'on voit très bien, qui est très bien dessiné ici. Et ce chiffre choc, 3355 tonnes de déchets ménagers sont collectés par jour sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Allons voir cette terrasse, allez. Oula, on a une vue magnifique là. Voilà, et on a juste en face de nous le palais du Pharo, immense palais très connu à Marseille qui surplombe un petit peu la ville et puis les îles du Frioul au large. On voit le toit du Mucem là, comme ça, à fleur d'eau quasiment, qui se confond presque avec la mer. Il y a un dégradé de bleu et de gris, le toit du Mucem qui est gris, et puis cette mer derrière avec les nuages, ça donne une impression très, très particulière.
Voilà, là on va passer le contrôle, parce qu'on est sous le contrôle de ces vigipirates.
Bonjour. C'est pareil, hein, t'es obligé, est-ce que t'as vu aussi.
Voilà. Merci. Ascenseur sur notre droite, on a des escalators, c'est une possibilité. Il y a un certain nombre de travaux là en cours sur cette.
Ah oui.
Mais on va passer par un autre.
Alors, on est juste à côté du Fort Saint-Jean, là, juste en face.
Voilà, hein, on est en face du Fort Saint-Jean, on est derrière la fameuse résille et on est sur cette passerelle qui, tout autour du musée, permet au public, tout doucement, de monter d'un niveau vers l'autre.
Alors avec ces sacs poubelles, c'est très étonnant parce qu'on a un mur de sacs poubelles qui gonfle. Je vais vous faire écouter le bruit des sacs poubelles qui gonflent et qui se dégonflent. C'est assez étrange. Qu'est-ce que c'est la symbolique, Denis ?
C'est une œuvre de Nils Folker, un artiste allemand. Et c'est quoi ces sacs qui se gonflent en cesse ? Ben finalement, c'est l'image de l'emprise des déchets sur la planète. C'est-à-dire à peine nous avons vidé un sac poubelle qu'il est déjà à nouveau rempli. Et c'est sans fin.
On sait que chaque année, plus de 20 millions de tonnes de déchets sont déversés dans l'océan, 80% de plastique et 100 000 animaux marins en meurent chaque année. On va retrouver Franck Pourcel qui devrait être dans une salle là, à côté de ses photos. Voilà, avec plein de photographies, notamment des photographies de Turquie, d'Albanie. Bonjour Franck Pourcel.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici au Mucem. Vous êtes photographe, l'un des plus grands photographes de la région. Vous êtes parti en mission dans plusieurs pays pour photographier les ordures et le traitement des déchets. Et à Tirana, en Albanie, vous avez réalisé un reportage sur un groupe de Roms spécialisé dans la collecte de déchets. C'est une population qui en vit.
plutôt qu'en survie. C'est plutôt difficile comme métier. C'est certainement le dernier métier qu'ils peuvent faire. Et qui, ne pouvant plus vivre de l'agriculture dans ces montagnes qui se désertifient au fil des ans, descendent vers les villes, et particulièrement sur Tirana, pour venir travailler le déchet.
Et à Istanbul, il y a une grande filière du recyclage. On est justement juste à côté d'un objet très encombrant, très symbolique aussi. Décrivez-nous là ce que nous avons juste en face de nous, un diable avec un immense sac.
Oui, c'est un peu l'objet qu'utilisent les ramasseurs de déchets. Donc c'est un grand sac appuyé et tenu sur un grand diable. Pascal Garret montre très bien le parcours que fait ce personnage en déambulant dans les lieux les plus touristiques d'Istanbul. Et il se promène avec ce sac qui, à la fin de la journée, pèse une centaine de kilos. Hein. Donc c'est vraiment l'objet qu'utilise le ramasseur de déchets.
Alors, on le voit à Rio, on le voit dans plusieurs villes du Brésil aussi, où il y a des ramasseurs de canettes qui en font justement un petit business pour survivre. Qu'est-ce que c'est, Denis Chevalier, là, au centre de cette immense salle du Mucem, des baraques avec des chiffons, des t-shirts de toutes les couleurs qui font le toit et les murs de la cabane?
Alors, celle qui est là, qui est effectivement recouverte de t-shirts, d'un millier de t-shirts, qui ont été d'ailleurs procurés par les chiffonniers d'Emmaüs de Marseille, elle va parler de quoi ? Elle va parler de la fripe, c'est-à-dire qu'elle va parler de la deuxième vie de nos vêtements, à partir du moment où nous les donnons à un organisme caritatif parfois. Et qu'est-ce qu'ils deviennent ? On va expliquer que ces fripes, pour 90%, elles vont se retrouver dans des circuits commerciaux chez des grossistes, et elles vont, pour certaines d'entre elles, être exportées en Tunisie.
Où, il y a un grand marché, faire, un grand business de la fripe en Tunisie.
Où elles vont faire l'objet.
Voilà, on entre dans la petite maison de t-shirts.
D'une économie, d'une petite industrie. Elles vont commencer par être triées par des ouvriers dans de grandes usines, qui vont séparer les différentes catégories de fripes et vont distinguer les catégories les plus chères des catégories qui vont se terminer en déchets, en chiffons, et parfois qui vont même partir en tant que telles dans d'autres pays du monde, et en particulier en Inde ou au Pakistan.
De cet endroit sinistre, finalement, avec vous, Denis Chevalier, Franck Pourcel, on va se diriger vers une grande baie vitrée ici dans cette exposition Vie d'ordure au Mucem, avec la mer Méditerranée que l'on voit ici. Si vous êtes au bord de la mer, ne jetez surtout pas vos déchets et surtout pas d'objets en plastique. C'est super important, mais vraiment, on a l'impression que c'est anecdotique, mais pas du tout. Il ne faut pas jeter ces objets plastiques.
Ni des mégots.
Ni des mégots. Voilà, on va terminer avec une citation de Gandhi qui figure dans le livre « Vivons plus simplement afin que d'autres, tout simplement, puissent vivre ». Merci beaucoup, Denis Chevalier.
Merci à vous.
Merci de nous avoir accueillis ici à Marseille, au Mucem. Merci, Franck Pourcel.
Merci à vous.
À très bientôt. « Vie d'ordure » est paru aux éditions Artlis, et l'exposition ici au Mucem à Marseille se tient jusqu'au 14 août. Merci à vous.
À bientôt.
On quitte Marseille et on se retrouve à Montréal, où nous sommes cette semaine pour cette émission. Avant de partir chez Albert Uderzo dans l'univers d'Astérix à Neuilly-sur-Seine, on part à Bamako avec le nouveau titre de M en duo avec Fatoumata Diawara. Merci à vous d'écouter la librairie francophone estivale à travers le monde.
L'odeur d'un matin nu, d'un Mali dévêtu. Pars et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va et tu le
je m'en souviens comme un rêve qui me traîne. Toute la chaleur des tiens, la douceur de sa vie. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Oui, pars et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va et tu le retrouveras.
M avec Fatoumata Diawara, 7 R sur votre radio francophone. Après notre escale à Marseille et depuis le quartier des spectacles de Montréal, où nous sommes pour cette rencontre inédite entre Tiken Jafakoli et Karim Ouellet, qui seront dans notre club francophone tout à l'heure sur la place des festivals, je vous emmène à présent à Neuilly, la ville chic de la banlieue parisienne. Uderzo nous avait reçu chez lui en 2013 pour un très long entretien. Voici une nouvelle version de ce moment de radio rare avec le père d'Astérix et Obélix.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Bonjour Albert Uderzo.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup de recevoir la librairie francophone ici chez vous, dans votre maison de Neuilly. C'est un lieu de travail aussi pour vous. On est dans votre atelier, alors on a des bandes dessinées un peu partout, plein de personnages issus d'Astérix. Vous pouvez nous décrire ce que l'on voit là ?
Oh, ma foi, oui. Il y a un peu de choses, parce que par rapport à tout ce que j'ai pu faire depuis plus de 60 ans maintenant. Alors vous avez quelques couvertures d'albums, bien sûr, ça concerne principalement Astérix, j'ai pas besoin de vous le dire. Et puis j'ai aussi quelques originaux qui me sont offerts par des confrères que j'adore et dont beaucoup malheureusement ne sont plus là. Vous avez derrière vous, vous avez Peyvet, vous avez Franquin, Peyot, enfin... tous les grands, y compris un grand dessinateur que j'ai connu quand j'avais 14 ans et qui s'appelait Calvo.
Alors vous le savez, Albert Uderzo, cette émission est diffusée dans tous les pays francophones, des pays qui sont disséminés à travers le monde. Ces pays connaissent Astérix et Obélix, bien sûr, des Gaulois, des personnages français. Vous n'avez pas craint à un moment, vous écarter du reste du monde avec des personnages français et un Tintin face à vous qui était plutôt neutre?
Bien, vous savez, quand nous avons créé ce personnage, c'était à la demande du réalisateur d'un journal qui s'appelait Pilote, on peut donner son nom, qui s'appelait François Cloteau, et ce monsieur, qui n'était pas du tout dirigé vers la bande dessinée, voulait absolument faire un journal typiquement français, et qu'il soit lu par ses enfants d'abord, parce que nous étions un peu inondés par la bande dessinée américaine à l'époque. Et quand nous avons décidé avec René Goscinny de faire un nouveau personnage, on a cherché évidemment, on a eu d'abord une idée qui nous paraissait pas mal, c'était le roman de Renard, qui est une vieille histoire ancestrale qui touche notre culture. Et au moment où j'avais commencé d'ailleurs à dessiner la première page, on nous a dit, ben vous qui voulez faire dans le nouveau, c'est raté parce qu'il y a un autre dessinateur qui est en train de le réaliser. Ça a été une catastrophe pour nous parce que nous étions à 2-3 mois de la sortie du numéro 1 de Pilote. Il a fallu absolument se dépêcher pour trouver une nouvelle idée. Et puis, bon, bah, on a eu cette idée des Gaulois. Pourquoi les Gaulois? Parce qu'il n'y a pas plus français que les Gaulois, bien sûr.
Pour le coup, oui.
Et on était loin de s'imaginer que ce personnage dépasserait de loin les frontières. Et on était loin de se douter de ce succès, évidemment. Et Dieu merci, heureusement qu'on ne le savait pas. On aurait eu le trac, on aurait eu très peur.
Ça aurait été impossible d'avancer,
ouais. Ah ouais, ouais.
Il y a un concours très important qui a marqué un tournant dans votre vie, Albert Uderzo, en 1945. Les éditions du Chêne organisent un concours de bande dessinée. Alors vous créez Clopinard, un vagabond qui a une jambe de bois avec un ressort, comme ça il peut se battre plus facilement. Vous créez aussi Groggy, un gros ivrogne heureux de vivre, qui ressemble d'ailleurs un peu à Obélix. Il est d'ailleurs, je trouve, moins consensuel qu'Obélix. Et vous prenez beaucoup de risques à l'époque.
Oui.
Et les éditions du Chêne vous proposent un contrat, ça marche, vous gagnez.
Je suis tombé curieusement sur cette annonce et je me suis amusé à faire une page de présentation avec Clopinard. Et j'ai gagné ce fameux concours qui m'a rapporté d'ailleurs une somme énorme parce que à l'époque, je ne sais pas du tout ce qui était payé traditionnellement dans ce métier, mais quand ils m'ont dit ça va être 5 000 francs, je suis revenu triomphant chez moi. Mon père, qui était beaucoup plus pragmatique que moi, m'a dit, c'est 5000 francs quoi, le tout ou le pavé? J'avais pas osé le demander.
Donc vous retournez place Vendôme, hein, parce que ça se passait place Vendôme.
Oui, très timide comme j'étais, dans un site que je connaissais pas. C'est la première fois que j'allais place Vendôme, en demandant piteusement, c'est quoi, c'est la planche? Mais bien sûr, monsieur, c'est la planche. Quand je suis revenu voir mon père, là, il a commencé à croire que j'avais fait le bon choix.
Astérix a été créé par Uderzo et par moi très simplement, sans problème. Nous cherchions une histoire qui puisse amuser le public et puis c'est comme ça que c'est parti.
Albert Uderzo, il y a une rencontre qui a marqué votre vie, bien sûr, celle avec un certain Goscinny. Alors tout se passe grâce à un agent belge qui remarque votre travail dans la presse. Il vous demande si vous voulez bien faire de la BD pour lui. Alors vous acceptez, bien sûr. Lui, il achète des bureaux sur les Champs-Élysées. Du coup, vous voyez arriver un personnage, René Goscinny, qui débarque des États-Unis. Comment s'est passée votre première rencontre? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez senti qu'il y avait un concurrent ou...
Non, pas du tout. En fait, cet agent voulait absolument que j'aille travailler chez lui dans ses bureaux des Champs-Élysées, parce que ça remplissait un peu ses bureaux qui étaient vides. Goscinny faisait une bande dessinée qui s'appelait Dick Dix, qui était un détective qui se baladait à pied parce qu'il savait pas dessiner les voitures. Et c'est curieux. Et donc, j'ai vu arriver ce jeune homme plutôt maigrichon, frisottant, très timide. C'est comme ça qu'on a commencé à discuter un peu du métier que nous voulions faire. Et nous avions les mêmes idées, à savoir que lui était un garçon qui aimait l'humour, moi qui dessinais justement des personnages grotesques. Et on a décidé de s'allier. Lui était plus à l'aise dans le scénario, moi plus à l'aise dans le dessin. Et voilà. Sans se douter qu'un jour, cette osmose ferait la création que l'on connaît maintenant. C'était un frère pour moi, et comme je l'étais pour lui d'ailleurs. Il y avait une osmose, enfin, pas la peine de parler de ça, on s'en doute bien qu'on n'a jamais eu aucun problème ensemble, et on n'a jamais tiré l'un ou l'autre la couverture à soi. On était bien ensemble, et on a toujours été bien ensemble. Voilà, et donc je suis resté comme ça pendant 2 ans. À la mort de Goscinny, on a osé dire qu'Astérix était mort. J'ai gardé d'ailleurs toute cette presse, je veux la garder précieusement parce que, pourtant maintenant ça date de bientôt 35 ans, mais ça a été terrible pour moi. Terrible, doublement terrible. D'abord, je perdais un grand ami, et deuxièmement, je n'apparaissais plus là-dedans, donc j'avais cette considération d'être moi-même mort. Et puis, comme vous dites, j'ai eu un sursaut d'orgueil, peut-être malséant, je ne sais pas, mais j'étais complètement fou, parce qu'aujourd'hui, je n'oserais même plus faire ce que j'ai fait. J'ai décidé, non seulement de faire les scénarios moi-même, mais j'ai décidé de m'éditer moi-même. Et puis, je suis parti sans savoir où je mettais les pieds, et mon premier album, qui s'appelait Le Grand Fossé, curieusement d'ailleurs, je m'attendais à pire, et puis ça a marché.
Alors ça a marché, la critique vous égratigne un petit peu, et n'en déplaise à certains, Albert Uderzo, c'est sans doute aujourd'hui l'un des meilleurs Astérix que vous ayez produit. Alors il y en a d'autres, évidemment, chacun a ses goûts, hein, comme on dit, et chacun a son Astérix fétiche, mais Le Grand Fossé est un grand album, vraiment, et d'ailleurs on vous dit à l'époque, oui, mais c'est sûr, Goscinny a fait le scénario avant de mourir.
Oui, alors ça c'est la plus grande joie qu'on pouvait me faire,
ouais, c'est ça.
Parce que moi qui craignais justement qu'il y ait une critique désastreuse, à partir du moment où il n'y a qu'un seul... journaliste qui a osé écrire ça, et je me suis dit, si il croit ça, alors vraiment c'est que le scénario est bon. Bon, et ça n'a pas été suivi des faits, parce que les autres scénarios que j'écrivais étaient mal acceptés. Alors, on disait, oui, c'est bien, mais enfin, hein, ça vaut pas Goscinny. Ben, je sais bien que ça valait pas Goscinny, mais bon, il fallait le faire vivre, ce personnage.
On va terminer avec une anecdote, Albert Uderzo, pour cet entretien ici chez vous à Neuilly. Vous vous souvenez du jour où vous êtes allé avec Goscinny négocier vos droits chez Dargo?
Je suis allé seul d'ailleurs.
Ah oui, tout seul?
Oui, parce que Goscinny, il avait une forme de timidité quand il fallait parler intérêt. Il n'aimait pas ça. Moi, je n'aimais pas ça non plus, mais il fallait bien qu'il y en ait un qui se dévoue. Alors, il se dévouait déjà pour s'approcher des médias. Moi, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et donc, je suis allé voir le préposé, qui était un type extrêmement antipathique, il faisait du cheval, alors il avait toujours des culottes de cheval, avec des bottes, et alors il se baladait avec une cravache qui frappait comme ça sur son côté, vraiment. une caricature. Et alors, je lui dis, écoutez, vous nous avez fait un contrat, là, qui est vraiment très, très pauvre. On espérerait quand même pouvoir augmenter un peu. Et il me répond, écoutez, arrivez déjà à 30 000 exemplaires, et après, on commencera à voir. Ah bon, d'accord. Et puis, comme vous le savez, les 30 000 exemplaires ont été dépassés largement. Et ce qui est malheureux, c'est que ce garçon-là n'est pas resté chez Dargaud. J'aurais tellement voulu le voir après.
Et voilà, aujourd'hui, 325 millions d'exemplaires dans le monde entier. C'est l'estimation. Hein, parce que
350 millions.
300, voilà, ça monte évidemment tous les mois. Merci beaucoup, Albert Uderzo. Merci infiniment de nous avoir reçus ici, d'avoir reçu la librairie francophone.
Merci à vous.
Merci, à bientôt, Albert.
À bientôt.
Voilà pour cet entretien d'Albert Uderzo que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur Internet. Notre séquence humour à présent, toujours depuis Montréal. Bonjour Boukhar Diouf.
Bonjour Emmanuel.
Nous sommes au pied du pont Jacques-Cartier, juste à côté de la tour de Radio-Canada, le pont Jacques-Cartier qui a été illuminé pour les 375 ans de Montréal. Il est juste en face de nous. Alors c'est votre séquence, la séquence humour avec vous Boukhar.
Ce qu'il faut rajouter, Emmanuel, c'est que le pont Jacques-Cartier est illuminé de toutes les couleurs. Et moi, comme Africain, ça me fait du bien. Parce que je suis arrivé ici en 1991, et la première chose que j'ai réalisée en écoutant les particularités lexicales des Québécois, c'est à quel point la langue française n'est pas si tendre avec la couleur noire. Je ne sais pas pour vous, les francophones de l'Europe, mais ici, dans la francophonie canadienne, tout ce qui est noir a une connotation négative. Le travail au noir, le marché noir, les idées noires, le mouton noir, le chat noir, les mouches noires, la bête noire, la glace noire, la misère noire, la période noire, noir comme le diable, noir comme le poil, je broie du noir. J'aurais pu continuer à t'en citer beaucoup d'autres, Emmanuel, mais là j'ai un blanc de mémoire. Okay? Il m'arrive de me demander si la langue française manque de tendresse pour le noir, mais de temps en temps je me dis peut-être que c'est une langue qui n'a pas de vision des couleurs. Peut-être que la langue française est daltonienne, c'est ma vision. Parce que j'ai remarqué que dans les pays de blancs comme ici, les hommes blancs viennent au monde bleu, les femmes viennent au monde rose. Mais quand tu mélanges beaucoup de bleu et de rose, bizarrement on dit c'est noir de monde. Mais heureusement, les hommes qui sont bleus à la naissance peuvent virer rose après le mariage. Et lorsqu'ils sont grisonnants et le temps leur en fait voir de toutes les couleurs en limitant leur capacité physique, ils peuvent retrouver leur couleur de naissance grâce au Viagra, évitant ainsi que madame ne voit rouge, qu'elle broie du noir ou qu'elle trouve refuge dans les bras d'un jeune homme plus vert. Tu peux rire jaune, Emmanuel, mais un jour, toi aussi, tu auras les cheveux blancs. Et en ce moment, la petite pilule bleue t'aidera à voir la vie en rose.
Mais tu portes du noir pourtant, Boukhar.
Bien sûr, je célèbre mon appartenance. Et parfois, je dis aux francophones du Canada, parfois je leur dis, écoutez, moi je sais qu'une logique de confrontation opposant les noirs d'un bord et les blancs de l'autre, ça nous mène aux échecs. Mais si on faisait tous partie d'une grande nation arc-en-ciel, comme le recommandait Nelson Mandela, le monde serait définitivement plus gai. Il y a trois couleurs primaires, et ce qui fait la richesse des grands maîtres, ce sont les mélanges de couleurs et l'éclairage qu'on leur donne. C'est ça que j'ai envie de dire à la francophonie. Voilà, j'ai terminé, Emmanuel.
Merci, Boukhar Diouf. On vous retrouvera à nouveau au mois d'août dans la librairie francophone estivale pour un nouveau sketch. On va quitter le pont Jacques-Cartier pour la place des festivals, rejoindre Tikenja Fakoli, un noir.
Ah, Tiken est là. Oui. Ah oui. Lui, ils ont partagé le monde. Tout le monde connaît ça.
Exactement, ils ont partagé le monde. Il sera aussi avec Karim Ouellet pour une rencontre africaine et québécoise inédite. Montréal célèbre ses 375 ans et nous mettons en lumière la richesse culturelle de cette ville et son métissage qui fait très certainement l'une de ses plus grandes forces. Et voici un extrait du concert de Tikenja Fakoli, venu plusieurs fois en tournée au Canada. C'est un extrait en exclusivité de son concert aux Francofolies de Montréal, donné à l'occasion des 375 ans de la ville. Merci à vous d'écouter la librairie francophone estivale à travers le monde. On écoute Plus rien ne m'étonne.
Ils ont partagé le monde.
Tikenja Fakoli.
La Tchétchénie, moi je te laisse l'harmonie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan.
si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe. Partager Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Wolof. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandin. Une partie de l'Empire Mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé ma 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 Africa. Ils ont partagé ma 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 Africa. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe.
C'était Tikenja Fakoly avec un extrait en exclusivité de son concert pour les 375 ans de Montréal dans la librairie francophone estivale.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Et nous voici arrivés sur la place des festivals, lieu culturel emblématique de Montréal. Inauguré en 2009, ce vaste lieu très moderne avec des fontaines d'eau au sol et le musée d'art contemporain en face de nous, là, juste là, qui peut accueillir cette place quand même 25 000 personnes pour un spectacle en plein air et au cœur du centre-ville. C'est un club francophone musical aujourd'hui depuis le Canada. Bonjour Tikenja Fakoly.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez joué pour les 375 ans de Montréal, ici même. Au mois de juin. Vous êtes l'un des plus grands artistes africains. Vos textes sont très engagés. Depuis plus de 15 ans, même 20 ans, on va dire, hein, sans vouloir trop nous vieillir tous les deux, vous faites réfléchir le monde sur la condition africaine. Comment vous vous sentez ici à Montréal ?
Je me sens bien. Il y a le soleil. J'adore les publics de Montréal. Hein, j'aime beaucoup parce que je suis venu ici en 2000. J'ai trouvé qu'il y avait plus d'ambiance qu'en France.
Ouais, ouais.
Voilà, donc voilà, je suis très heureux d'être là. Je suis venu plusieurs fois à Montréal et ça s'est toujours bien passé. Donc très heureux d'être là encore aujourd'hui.
C'est vrai que vous avez souvent joué à guichet fermé au Québec, notamment lors du festival Nuit d'Afrique, qui se tient d'ailleurs en ce mois de juillet. Il y a un rapport privilégié à l'Afrique ici ?
Bien sûr, je pense que y a, la première fois que je suis venu, c'est quelque chose qui m'a touché. J'ai trouvé que les gens s'intéressaient beaucoup à l'Afrique.
Très bien. Cette séquence, vous le savez, Tiken, favorise les rencontres entre artistes et auteurs. Et c'est le jeune chanteur Karim Ouellet qui est face à vous aujourd'hui. Bonjour Karim.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ici sur cette place des festivals face au musée d'art contemporain, juste vraiment à quelques mètres de là.
Merci pour l'invitation.
Mais je vous en prie, vous êtes le bienvenu en 3 albums seulement et grâce aux Francofolies de Montréal, mais aussi de La Rochelle, oui. Grâce à Radio-Canada qui vous déclare Révélation 2012-2013, vous êtes devenu un artiste phare de la scène musicale québécoise. Vous êtes canadien d'origine sénégalaise,
oui.
Et votre musique croise un peu tous les genres dans un esprit chanson francophone, électro-folk,
on peut dire ça comme ça.
Un mélange spontané de beaucoup de choses que j'aime. Je suis très influencé par la musique que j'écoute. Sur mes albums, il y a toujours un peu de reggae. Ce que j'appelle vaguement de la musique électronique, mais on peut appeler ça comme on veut. Beaucoup de guitare, parce que je suis guitariste avant tout. Un mélange de tout ce que j'aime.
Et des textes très écrits.
J'aime beaucoup écrire. J'écris de cette façon un peu... certains la décrivent parfois comme un peu ludique, un peu enfantine. J'aime l'aspect conte dans les chansons que je fais. J'aime raconter des histoires avec énormément d'images. J'aime que ça porte à interprétation. Je me fais plaisir et puis tant mieux si on aime ça.
La culture africaine qui est très représentée ici, on en parlait à l'instant avec Tikanja, elle vous inspire dans vos créations ou vous en détachez complètement?
Je vais vous expliquer comment ça m'inspire. Moi, je suis né au Sénégal. Ouais. J'y ai passé... quelques années, jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, j'ai été adopté par deux Québécois, mes parents.
Votre papa est diplomate.
Oui. À la retraite aujourd'hui, mais diplomate à l'époque. Donc, quelques années au Sénégal, on s'est installé au Québec. Moi, c'était ma première fois à l'âge de 4 ou 5 ans. Quelques années au Québec, ensuite quelques années au Rwanda. Retour au Québec, suivi de quelques années en Tunisie. Retour au Québec, suivi d'un retour au Sénégal, à Dakar. Et puis, moi, ma passion pour la musique a débuté... je crois au Rwanda, quand j'ai réalisé qu'on avait des instruments de musique à la maison, un piano, des percussions. La musique dans tous ces pays m'a toujours énormément, énormément touché. Et lorsque je compose, c'est plutôt mes souvenirs qui viennent...
Qui viennent des ambiances, c'est ça?
Des ambiances, des souvenirs, des rencontres.
La musique de Tikan Jafakoli
aussi? La musique de Tikan que j'écoute depuis très longtemps aussi, que j'aime beaucoup. Ouais. Moi, je suis... la musique que j'aime le plus, moi, c'est le reggae. Tikan a été... celui qui m'a ouvert la porte vers une tonne de choses que j'écoute encore aujourd'hui. Donc,
alors c'est très content d'être ici. Très mélangé, c'est vrai que votre production est très étonnante. Moi, j'ai vu votre concert deux fois, hein, à Montréal d'ailleurs. Le premier il y a quelques années où on vous faisait découvrir. Et puis au Francofolie cette année, Francofolie de Montréal. On va écouter un extrait de votre dernier album, Karim Ouellet, avec La mer à boire. Écoutez ça. Mer à boire, extrait de l'album 30. On peut voir votre clip sur YouTube, Karim Ouellet. Vous êtes dans un paysage magnifique, face à une cascade, et vous dites « Ce monde va nous manger tout cru, m'habille pas dans ma tombe, tu sais, je suis né tout nu. »
Tout à fait.
Vous l'avez tourné où, ce clip ?
Au Nicaragua, tout près de Granada, et puis sur l'île d'Ometepe, il y a quelques mois déjà.
Alors, ce serait quoi, La mer à boire, pour vous ?
La mer à boire, pour moi, c'est une chanson qui parle beaucoup de résilience, une chanson sur laquelle j'accepte mon sort, une chanson qui fixe un moment dans le temps, et puis voilà, c'est une chanson qui est camouflée derrière un désespoir, mais derrière ce désespoir-là se cache justement le fait que tout peut bien aller.
Alors Tikan Jafakoli, vos plus célèbres chansons, Manger Crassi, Le pays va mal, Plus rien ne m'étonne et Ouvrez les frontières, ont eu un écho considérable sur le plan international. Cela vous a valu des problèmes dans votre pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi ailleurs, en Afrique. Vos textes ont dérangé les pouvoirs politiques, ils ont fait peur, vos textes.
Oui, effectivement, mais bon, c'est la mission du reggae aussi, hein, éveiller les consciences, parler pour la majorité des Africains qui n'ont pas la possibilité de parler. Ça m'a valu des problèmes en Côte d'Ivoire, mais aussi au Congo, Kinshasa, où je suis interdit de séjour aujourd'hui. Mm-hmm. Ils ont écouté mes textes, ils ont trouvé que je ne devais pas les chanter là-bas parce que j'allais révolter les populations. Mais c'est le reggae. Moi, je ne peux pas chanter autre chose que de chanter des chansons d'éveil des consciences, d'éducation.
Vous sentez plutôt écrivain, plutôt reporter quand vous écrivez un texte, parce qu'ils sont très incarnés, ils portent énormément de choses par rapport à la condition du monde et par rapport aux inquiétudes de Karim Ouellet, par exemple.
Non, je pense que vous écrivez en même temps reporter. Je fais les deux. Hein. Je pense que c'est les deux. Parce que voilà, le reggae a comme mission de ce qu'on fait en ce moment.
Alors vous enfoncez le clou avec l'album Coup de gueule en 2004. Et justement, dans cette séquence carte blanche, il y a une petite règle. Vous l'avez connue puisqu'on vous l'a transmise. Parler d'un engagement citoyen qu'il porte et pousser un coup de gueule en toute liberté. Alors commençons par vous, Tikanja Fakoli, votre coup de gueule.
Mais le coup de gueule, c'est contre Donald Trump, qui aujourd'hui a carrément trahi la cause mondiale, puisque aujourd'hui la planète va mal et le monde entier est en train de se mobiliser pour que la planète se porte mieux. Un grand pays comme les États-Unis, qui aurait pu peser dans la balance, vient quelque part trahi. Et donc voilà, mon coup de gueule, c'est contre le dernier discours de Donald Trump, le président des États-Unis.
Très bien, Karim Ouellet.
Je dois donner un petit coup de gueule à Donald sur la route, mais mon choix veut s'arrêter sur quelque chose qui me fascine et me fait peur depuis des années déjà, et puis c'est l'utilisation qu'on fait, sans vouloir généraliser, mais l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux.
Ouais.
Moi, je me souviendrai toujours d'une amie qui vient chez moi pour manger et qui me demande « Tu connais Facebook ? Tu devrais t'inscrire ?» Je fais « Ah oui, je vais y aller ». Et puis, tout se passe bien dans les premiers mois. Et ensuite, c'est arrivé en même temps que mon succès ici. Ouais. J'avais une page personnelle qui portait mon nom. Donc, tranquillement, je me retrouve avec des milliers, des milliers, des milliers d'amis. Et puis, je me retrouve avec un petit échantillon social d'une tonne de gens que je connais pas. Et puis, je lis ce qu'ils écrivent parce que je me pose des questions. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens écrivent? Et j'ai vu tellement de violence, de haine, de manque de respect, sans peur d'être haineux. Des commentaires, des photos, des attitudes qui m'ont coupé en deux.
J'ai quitté... ça a l'air de vous énerver, vous êtes très aimé, je vois dans vos yeux, là, vous êtes... Ça vous met hors de vous, en avoir les larmes aux yeux.
Ça m'a beaucoup touché. Puis
encore aujourd'hui, là.
Oui, j'ai quitté les réseaux sociaux pendant des années après.
Ah ouais.
Et j'y suis retourné par la force des choses, parce que dans l'industrie québécoise de la musique dans laquelle je travaille, m'oblige un peu à faire ma promo via Internet énormément, donc j'y vais de reculons, mais je m'en sers.
Quel est votre engagement citoyen? La deuxième règle, on a parlé des engagements de Tikan, je crois que voilà, c'est fait à travers son œuvre, Tikan Jafakoli. Vous, quel engagement prenez-vous en ce moment, Karim?
Moi, tout ce que je souhaite, et c'est ce que je crois je fais le mieux, c'est de me servir de la musique que je fais pour faire le bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est travailler avec différentes causes, parce qu'il y en a plusieurs que j'appuie. Je vais parler rapidement de Jeunes Musiciens du Monde, qui est un organisme incroyable qui aide les jeunes dans plusieurs pays dans le monde, donner des cours de guitare, faire des ateliers avec eux. La Maison Bleue à Montréal, qui aide des femmes monoparentales qui ont besoin d'aide, etc., etc.
Tikan Jafakoli, vous jouez aussi, comme ça, comme le fait Karim, pour des causes?
Oui, bien sûr. On a joué plusieurs fois pour SOS Racisme en Paris, puis des associations aussi qui luttent pour la protection de la planète.
Oui, l'écologie, alors c'est vrai que vous êtes très concerné par l'écologie. Alors ici au Québec, plus largement au Canada, c'est un engagement qui implique tout le monde. Vous militez, vous, pour l'agriculture en Afrique, et vous dites même que si vous n'aviez pas été chanteur, vous auriez été agriculteur.
Je pense.
Parce que tout est là, c'est ça, toute la vie
tout
est là.
Tout est là, il y a de la place, il y a le bras valide, il y a le soleil, il pleut. Je pense que si... il y avait une bonne politique agricole venant des dirigeants africains, l'Afrique aurait pu nourrir une grande partie de la planète. Parce que il pleut, il y a le soleil, il y a de la place et on a des jeunes costauds. Donc on a aussi la possibilité de travailler avec des outils modernes aujourd'hui si les gouvernants nous mettent tout ça à disposition. Moi je suis attaché à l'agriculture parce que j'ai grandi dans un petit village avec mon oncle, donc tous les week-ends j'allais au champ et donc c'est comme ça que j'ai appris à cultiver le manioc, le riz, etc. Et donc c'est des choses qui m'ont jamais quitté. Et en 2013, j'ai fait une année de pause pour me consacrer à l'agriculture. J'ai fait 50 hectares de riz dans mon village, dans le nord de la Côte d'Ivoire. 50 hectares de riz. Et le but c'était de montrer l'importance, sinon de valoriser l'agriculture.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette carte blanche dans ce club francophone que nous formons tous à travers cette émission diffusée dans tous les pays francophones. Karim Ouellet, votre album 30 est sorti chez Coyote.
Oui, tout à fait.
Et l'intégrale des albums de Tikan Jafakoli est sorti en coffret chez Barclay. C'est indispensable, c'est un coffret absolument génial. Et puis il y a un livre sur vous, Tikan, paru en 2008 aux éditions Les Arènes. Tikan Jafakoli, L'Afrique ne pleure pas, elle parle, de Frédéric Briard. Merci.
Merci.
Et on termine avec le bonus du club et deux histoires personnelles francophones racontées par nos invités. Histoire que je découvre en même temps que vous. À vous l'honneur, Tikan Jafakoli. Que voulez-vous transmettre? Quelle histoire?
Moi, la petite histoire, qui fait rire d'ailleurs. À l'époque, il y a 25 ans, je cherchais un producteur. C'était tellement difficile pour moi d'en avoir. Mais je voulais qu'on me voie à la télé, etc. J'avais aucune possibilité. Donc un jour, il y a la radio-télévision ivoirienne qui a organisé un marathon.
Ouais.
Et comme moi, je faisais beaucoup de sport à l'époque pour la scène, donc je me sentais puissant, je pensais que je pouvais gagner. Et le but, c'est de participer à ce cross-là, gagner, et qu'on me voie à la télé, et que je profite du micro ou de la caméra pour lancer l'appel à un producteur. Et puis j'ai été avant-dernier de la course.
Donc, ça a fait parler, non, Bon, aurait fallu être dernier, Tiken.
Non, personne ne. Les gens n'ont pas parlé, puis j'étais pas connu, mais bon, c'était la petite histoire, quoi.
On parle du dernier ou du premier. Voilà. Vous avez mal joué le coup.
J'ai mal joué le coup, voilà. Peut-être que si j'avais été dernier, ouais, effectivement, peut-être qu'on m'aurait montré à la caméra.
Ah oui, c'est l'honneur qui vous a perdu, en
voilà,
fait.
Donc c'est ma petite histoire.
Merci, Tikenja. Karim Ouellet.
Moi, c'est l'histoire d'une rencontre. Ça s'est passé au Francophonie. Dans un de mes premiers concerts que j'ai fait en 2011 sur une scène extérieure, et puis juste après les balances, je suis avec ma petite sœur, on se promène sur la rue Sainte-Catherine tout près, et puis quelqu'un vient me voir en me disant j'ai écouté les balances, j'ai vraiment aimé ça, félicitations, bravo. Une sœur dans ses bras, mais je fais merci mon cher. Ma sœur arrive derrière moi en courant, elle me dit tu sais pas c'est qui? Je fais non. Elle me dit il s'appelle Stromae, va écouter sa musique. Donc là je vais voir, je fais d'accord. Donc on s'est recroisés quelques jours après et j'ai fait sa première partie à Montréal l'année suivante,
ouais.
Une tournée avec lui en Europe ensuite, puis des spectacles au Centre Bell ici à Montréal et puis dans les Zéniths en France, en Belgique, en Suisse. Et puis si on ne s'était pas rencontrés sur le coin de la rue comme ça, je crois que tout ça n'aurait jamais eu lieu.
Et puis il y a un lien avec le Rwanda, parce que
oui.
Vous parliez du Rwanda.
Oui, tout à fait.
Vous avez vécu là-bas.
Oui, pendant deux ans et demi.
Et Stromae est évidemment d'origine
oui.
rwandaise.
Oui, on en a discuté beaucoup de tout ça, lui et moi.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Leila Kourousselikoua en France et avec Jacqueline Castonguet et Pierre Lévesque ici à Montréal. Merci aux équipes de la RTBF, de la RTS, de Radio-Canada et de RFI. À la réalisation, Christophe Imbert. Merci à vous d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.